RMC After Europe, le podcast Nicolas Villas.
Oh, vive! Bienvenue dans l'After Foot Europe, le nouveau podcast de l'After sur le foot européen. Le numéro 2 concerne le mythique numéro 7, l'homme aux 5 ballons d'or, qui vient de secouer une fois encore la planète Mercato. C'est bien sûr Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, who goes for goal. Oh, and what a goal from Cristiano Ronaldo!
Cristiano, how did you enjoy tonight?
Now Ronaldo, now he's three up with him. Zaha goes to near post. Ronaldo goes for goal! And he scores the goal!
Yeah, it's a good game. It's a good performance. Team win, it's important.
Is this the hat-trick? Cristiano Ronaldo, it is! His first hat-trick for Manchester United!
Are you feeling more and more confident with each game?
Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man?
No, I understand.
Ronaldo takes a free kick. Oh, brilliant! That's why he's the world's best. Cristiano Ronaldo.
Avec nos drôles de dames qui ont connu le portugais dans leur championnat respectif, on va vous disséquer Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pour l'Angleterre, Julien Laurence pour l'Espagne, Fred Hermel pour l'Italie, Johan Crochet, salut les gars.
Hola,
salut Nico, salut à tous.
Salut Nico.
Et aujourd'hui on va accueillir messieurs un statisticien, il est même plus que ça, il fait des trucs bizarres même la nuit, mais on vous dira pas quoi, c'est Loïc Moreau. Comment il va Loïc?
Très bien, et toi?
Alors si je dis tu vas faire plus que de la stat, c'est parce que tu vas pas juste balancer des chiffres, tu vas nous aider peut-être à fact-checker certaines idées reçues qu'on pourrait avoir autour de lui, pour nourrir nos débats bien entendu. Tiens Loïc, on va commencer par toi. Il y a beaucoup d'emballement, d'enflammade après le retour de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United. Est-ce que le phénomène Cristiano Ronaldo existe vraiment? Est-ce qu'il fait mieux jouer, plus gagner ses équipes justement Ronaldo?
Ah bah carrément, au niveau stat, c'est un des rares joueurs avec Messi, je crois qu'il n'y en a que deux, hein, qui tournent de toute façon un but par match. Donc c'est pour dire un peu l'importance de ce joueur-là. Et puis que ce soit Manchester United, encore plus au Real Madrid et même à la Juve, malgré, on en discutera plus tard, mais voilà, le passage un peu mi-figue mi-raisin, franchement ces stats, elles sont dingues, elles sont folles.
C'est-à-dire que si on compare avant et après lui, il y a un effet?
Bah alors c'est marrant parce qu'à Manchester United, Manchester est moins bon avant qu'il arrive. Une fois qu'il arrive, ils deviennent meilleurs.
En termes de résultats, quoi.
En termes de résultats, bien sûr, en termes de points par match notamment et de pourcentage de victoires, même en termes de titres. Et une fois qu'ils vont partir, ils vont continuer à être meilleurs. En fait, il aura bonifié, mais il va enclencher quelque chose. Et au Real, c'est marrant, il y a un avant, un après. Pendant qu'il est là, et pendant qu'il est là, forcément, il cartonne tout. Avant, c'est moins bien. Après, c'est moins bien. Et ils le vivent encore aujourd'hui. Et à la Juve, avant, c'est bizarre, parce qu'avant, c'était mieux. Avant qu'il arrive. Quand il est arrivé, donc on l'a dit, pas terrible, même si ses stats perso, à lui, elles sont excellentes. Et là, on verra cette saison si la Juve retrouve son meilleur niveau, celui d'avant Ronaldo. Ouais.
Alors, Julien, Johan, Fred, on va se tourner vers vous avec une première question qui concerne les trois. Fred, on va même commencer par toi, puisque c'est au Real qu'il semble avoir eu le plus de poids, Cristiano Ronaldo. Quelle trace a-t-il laissé au Real en Espagne, Cristiano Ronaldo?
Je vais peut-être vous surprendre. Il y a une trace statistique, une trace chiffrée impressionnante puisqu'il a fait exploser tous les records de l'histoire du club. Il ne se passait pas une semaine sans qu'il ajoute un nouveau record à son palmarès et qu'il entre dans l'histoire du Real Madrid. Sauf que cette légende, elle n'est pas forcément une légende d'amour. C'est un joueur qui aura marqué l'histoire du club sans aucun doute, qui aura laissé une trace sportive, mais il ne restera pas comme l'une des grandes idoles de l'histoire du Real Madrid. C'est dommage, c'est sûrement lié à la manière dont il est parti et les difficultés du début, son attitude parfois un petit peu difficile à comprendre par certains supporters et son départ un petit peu en queue de poisson pour la Juve. Un moment qu'on évoquera tout à l'heure. Donc il va falloir se lever tôt pour qu'un autre joueur portant le maillot blanc dépasse les records de Cristiano Ronaldo. Mais au niveau de l'amour et de l'image qu'il va laisser dans le cœur des supporters, il est loin d'être dans le top 20.
Tu dirais qu'il est derrière, par exemple, un Casillas ou un Raúl, par exemple. Alors, c'est marrant parce que...
Oui. Derrière un Butragueño, tout ça. Oui,
quand je vois les arguments que tu mets en avant, que ce soit Casillas ou Raúl, ils ont été un petit peu dégagés du club, alors que lui, c'est l'inverse, c'est lui qui a forcé la sortie, quoi.
Exactement, mais bon, ils ont dégagé du club, mais ils sont revenus. Ouais. Casillas, il travaille pour la Fondation, et Raoul est entraîneur du Castilla, l'équipe B, et sûrement qu'un jour, il sera l'entraîneur de l'équipe première. Donc, c'est pas compréhensible, parce que moi qui connais un peu Cristiano Ronaldo, c'est un mec adorable, mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec les supporters.
Alors, Julien, on va parler au présent, mais quelle trace, quelle marque, quelle image il a en Angleterre, Cristiano Ronaldo ?
À nous, alors, ça reste une légende, forcément, à Manchester United, parce que s'il est resté que 6 ans, donc moins qu'au Real par exemple, il a marqué moins de buts, même s'il a quand même été très bon, notamment sur ses 3 dernières saisons, ce qui sont les 3 plus belles. Il est arrivé tellement jeune, mais en fait, on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer, on l'a vu devenir le meilleur joueur du monde, alors qu'il est arrivé en étant un jeune ailier portugais flamboyant, certes, clairement très très fort, mais qui était très très loin de gagner un ballon d'or et de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui ou qu'il a été lors des dernières années. Donc c'est vrai qu'il y a un attachement particulier, je pense, pour l'Angleterre et surtout pour Manchester United envers Cristiano, parce qu'on se sent nous un petit peu aussi qu'on a une part de responsabilité, on a joué un petit rôle dans le fait qu'il soit devenu le meilleur joueur du monde et l'un des plus grands joueurs de l'histoire, et de l'avoir vu grandir comme ça, évoluer. C'est vrai qu'il y a une grosse fierté côté Manchester aussi, et puis maintenant qu'il revient, c'est encore plus beau que la boucle soit bouclée de cette façon là
Est-ce que ça aurait pu flinguer un peu l'image s'il était parti à City? Forcément, non?
Ouais, je pense complètement, c'est vrai. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça finalement que ça s'est pas fait et qu'il est revenu à United. C'est vrai que ça aurait, même si je pense qu'il y a certains supporters et à Manchester United et à Manchester City, enfin surtout à United, qui disent que Liverpool aurait été encore pire, que c'est eux le vrai ennemi, ouais. le vrai rival, plus dans un sens que City. Mais je pense que ça aurait fait quand même assez mal de le voir avec le maillot bleu ciel. Ouais.
Johan, quelle image il a laissé en Italie finalement? Quelle marque il a laissé après son passage à la Juve, qui est finalement le plus court de sa carrière à Ronaldo?
Finalement, c'est un peu comme Fred, c'est qu'il y aura une trace statistique qui est indiscutable, et évidemment que tout le monde, quand on parle de Cristiano Ronaldo, évoque ses nombres de buts, son nombre de passes décisives, les quelques trophées aussi gagnés, parce qu'il y en a eu à l'échelle nationale. On va retenir que c'était une superstar, qu'il a contribué à remettre un gros coup de projecteur sur le championnat chez ceux qui l'avaient mis un petit peu de côté. Donc on va retenir ce côté superstar avec tout l'affolement qu'il y avait eu quand il a signé à la Juve. Néanmoins, on n'a pas affaire à une légende, c'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un Del Piero, à un Buffon, à un Marchisio, un Sirea et beaucoup d'autres joueurs de la Juve, parce que pour être une légende, il faut deux choses. La première, c'est s'inscrire dans la durée. Là, ce n'est pas en 3 saisons que tu peux arriver à ce niveau de légende. Et puis, il faut sans doute aussi se montrer un petit peu humain. Et la personnalité robotique et le caractère égotique de Ronaldo n'aide sans doute pas pour devenir une légende, au-delà du fait qu'il a joué que 3 saisons à la Juve.
C'est-à-dire, tu dirais qu'il a l'image d'un égoïste un peu en Italie ?
C'est ça, c'est que tout passe par lui, qu'il doit être au centre de tout, qu'il veut la lumière et toute la lumière, et donc c'est difficile de s'attacher à ce genre de personnes-là qui finalement on a l'impression d'avoir plus un robot qu'un humain en face de nous, sans faille, sans, on sait qu'il va marquer un but, 2 buts chaque week-end, c'est une machine, etc. Et c'est vrai que on délaisse un petit peu le côté humain, on a du mal à s'attacher à ces personnes-là.
Ce qui existe moins chez nous en Angleterre, parce qu'à l'époque il n'était pas la machine qu'il est devenu au Real et puis après encore la Juve. Nous, il y avait ce côté plus humain parce qu'il est arrivé très jeune. C'était un gamin vraiment quand il est arrivé. Tu le vois avec son jean pas de def quand il est arrivé, les cheveux gominés en arrière. Enfin, c'est pas du tout le Cristiano des 10 dernières années. Et les dents tordues, mais c'est vrai. Et donc il avait un vrai côté humain, alors qu'après c'est sûr que c'est devenu une machine et qu'il a ce côté très froid parfois aussi, même sur son visage. À l'époque, nous, c'était pas du tout comme ça, et je pense que c'est pour ça que cette vision là de la machine est un petit peu moins forte peut-être en Angleterre par rapport à ce que Fred et Yo ont pu eux expérimenter en Italie et en Espagne.
Alors vous savez, c'est Jérôme Thomas qui nous aide à préparer cette émission. Jérôme me demande, Loïc, si t'as la stat de combien de boutons il avait sur le visage à son arrivée à United. Toi, le statisticien.
C'est pas une stat qu'on récoltait à l'époque, mais par contre, ça pourrait être une bonne idée pour les saisons prochaines. Merci, Jérôme.
C'est décevant, c'est très décevant.
Ouais, franchement, nous, on pensait que tu allais apporter un peu d'originalité au niveau de la stat. On est super déçus.
Je peux rien faire pour vous. Là.
Très décevant.
Les gars, on va vous demander tous les trois quel est le moment pour vous le plus marquant de Cristiano Ronaldo dans vos pays respectifs. On va la faire chronologiquement. Julien, tu dirais que c'est quoi la saison ou le moment le plus marquant de Cristiano Ronaldo?
Alors moi j'ai choisi la finale de la Ligue des Champions 2008, donc saison 2007-2008, déjà parce que c'est sa meilleure saison à United. Je crois Loïc, il marque 42 buts en 49 matchs, toute compétition confondue, pardon.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est voilà, si on compte pas les passes d'ess, mais c'était stratosphérique. Vraiment, cette saison-là, ils marchent sur l'eau du début à la fin. Ils ont été champions d'Angleterre la saison précédente. C'était un titre qui leur échappait depuis l'arrivée de Cristiano, d'ailleurs, puisqu'on avait eu les Invincibles d'Arsenal et puis après le José Mourinho de Chelsea. Donc, c'était un titre qui leur échappait aussi. Là, en plus d'être champion, il gagne cette Ligue des Champions qui leur échappe aussi depuis 1999, bien sûr. Et je pense qu'elle veut cette victoire et cette finale, même s'il rate son tir, il marque, mais il rate son tir au but aussi dans la séance de tir au but. Mais elle veut dire beaucoup pour lui parce que c'était le Graal déjà absolu pour Cristiano lui-même en tant que joueur. Il savait très bien que c'est ce qui allait l'amener au Ballon d'Or aussi. Et d'ailleurs, le Ballon d'Or a suivi quelques semaines plus tard, en fin d'année, son premier. Et puis aussi parce que pour le club, c'était tellement important et finalement qu'ils avaient eu raison de miser sur ce jeune joueur après un match amical contre le Sporting où tous les joueurs dans l'avion du retour pour Manchester avaient dit à Sir Alex, il faut aller le chercher, il faut absolument qu'il... Il ne peut pas nous échapper, on ne peut pas le laisser aller à Arsenal ou à Chelsea ou dans un autre championnat, il doit venir chez nous parce que c'est un phénomène. Et ils ont eu raison et je pense que Sir Alex était déjà au courant, mais que tout se fasse comme ça dans un jet privé sur un Lisbonne-Manchester après un match amical et qu'après quelques années plus tard il t'amène la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, pour moi j'ai choisi vraiment cette finale, même si c'était peut-être pas son meilleur match de la saison, mais en tout cas ça vient couronner une saison extraordinaire.
Fredo, toi aussi je crois que c'est un Ballon d'Or que tu retiens, une année de Ballon d'Or du moins.
Oui, parce qu'il remporte, c'est une année extraordinaire. Alors, le Ballon d'Or lui est remis en janvier 2015, mais c'est le Ballon d'Or 2014 qu'il remporte grâce à sa victoire en Ligue des Champions, où il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison-là. Je crois qu'il marque 17 buts. Ça faisait de nombreuses années que le Real Madrid, 12 ans que le Real Madrid attendait sa Ligue des Champions. C'est la fameuse décima à Lisbonne. Et là, Cristiano Ronaldo montre son vrai visage de gagneur quand il commence à hurler. On lui donne le Ballon d'Or et au moment du discours il fait Siou, et c'est devenu un peu le cri de ralliement des supporters du Real Madrid, quoi, de hurler le Siou, se dire ouais, enfin un truc comme ça, quoi. Donc et ça c'est une image l'une. Alors il y a eu beaucoup d'images très fortes, hein, parce qu'il est resté de nombreuses années. Il est arrivé en 2009, il est parti en 2018, donc 9 ans de Cristiano Ronaldo au Real ont donné 3 Ligues des Champions remportées, ont donné quatre Ligues des Champions ont donné l'occasion à plein d'événements. Mais celui-ci, ça reste une des images fortes de la carrière de Cristiano Ronaldo sous le maillot blanc des Merengues.
Johan, pour toi, le moment le plus fort de Ronaldo, ce ne sera pas un Ballon d'Or, c'est quoi du coup?
Bah, c'est son triplé contre l'Atlético en 8e de finale retour de la Ligue des Champions, saison 2018-2019, donc la première saison de Cristiano Ronaldo avec la Juve, parce que il était venu pour ça, clairement. Il n'était pas venu pour gagner le championnat d'Italie. La Juve l'avait gagné 7 fois consécutivement avant son arrivée, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais il était venu pour faire passer un cap à cette équipe de la Juve qui avait fait 2 finales peu de temps avant que Ronaldo débarque en Italie. Et on a eu le sentiment ce soir-là que c'était la bonne, que voilà, malgré une défaite 2-0 à Madrid, Ronaldo était capable de mettre un triplé au match retour et de porter absolument la Juve sur ses épaules. Le problème, c'est que ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'au tour d'après, il y a eu l'Ajax, et que la Juve est sortie de cette Ligue des Champions en quart de finale. Mais c'est une histoire d'amour entre la Ligue des Champions et Cristiano Ronaldo, et évidemment, j'ai pris ce prisme-là parce qu'il était venu pour ça et qu'il a répondu très globalement, vraiment présent en Ligue des Champions, contrairement à d'autres joueurs de la Juve.
Loïc, si on regarde au niveau des chiffres, au niveau des stats, toi, notre statisticien, mon cher Loïc Moreau, c'est quoi le moment le plus fort de Cristiano Ronaldo?
Tout à l'heure, Julien évoquait 2007-2008, effectivement sa meilleure saison à Manchester United, mais il y a une saison où il fait encore mieux au niveau chiffres, c'est 2014-2015. Il est au Real Madrid à l'époque, et là c'est absolument lunaire. Il dispute 54 matchs, toutes compétitions confondues, il marque 61 buts. Alors on est même au-delà de ce qu'on disait, les 1 but par match. Il marque toutes les 76 minutes, il convertit un quart de ses tirs, 25% qui rentre dedans, t'imagines Nico? C'est incroyable, surtout pour quelqu'un qui tire énormément comme Ronaldo. Tu vois, il arrose beaucoup, mais là, il y avait la précision qui venait avec. Et au final, si tu ajoutes les passes D, donc but passe D, il était décisif toutes les 57 minutes, donc moins d'une heure.
Ouais, c'est assez dingue.
C'est incroyable.
C'est incroyable. Et c'est vrai que Fred, quand on préparait l'émission, disait « Je vais avoir du mal à choisir finalement un moment fort de Ronaldo, tellement il y en a eu justement. » Mais là, on va s'intéresser à l'inverse. C'est finalement le moment le plus difficile que Cristiano Ronaldo a pu connaître dans vos championnats respectifs. Fred, tu dirais que c'est quoi justement le moment le plus dur de Cristiano Ronaldo au Real?
C'est le moment le plus dur parce que c'est sa plus grave erreur, ce qui l'amène à la Juve, et on voit bien que c'est un échec énorme. Il n'a jamais été heureux, la Juve. Il a regretté son geste. Bah, ce geste, ce sont des paroles prononcées lors d'un moment de fête, troisième Ligue des Champions remportée de suite par le Real Madrid de Zidane. C'est la finale contre Liverpool. Cristiano Ronaldo ne marque pas. Benzema marque, Gareth Bale qui est remplaçant, mais deux buts. La star, c'est Bale. Ronaldo n'est pas la star ce soir-là. Il montre son pire côté, en fait, son aspect le moins sympa. C'est-à-dire qu'il est tellement compétitif que, bah, il était même jaloux de Gareth Bale ce soir, et il lâche, mais quelques minutes après la victoire, il lâche cette petite phrase à la télé espagnole en disant qu'il ne sait pas s'il va rester au Real et qu'en gros, il a envie de partir. Et ça provoque son départ. C'est-à-dire que ce qui aurait dû être une grande fête ce soir-là, ne l'a pas été, puisqu'on ne parlait plus de la victoire du Real Madrid qui a fait un exploit extraordinaire. Trois Ligues des Champions de suite, personne n'avait jamais fait ça. Et on ne parle que du départ de Cristiano Ronaldo. Et ce qui a été de terrible, c'est qu'il a essayé quelque part de provoquer les supporters en disant: les gens vont être avec moi et le club va réagir et le club va m'augmenter. Mais en fait, la réaction des gens était de dire: ah, tu veux te casser? Bah, tu te casses.
Ouais,
Et
c'était pas
donc,
une
c'est.
première, en plus, hein.
Ben non, ce n'était pas une première. Il avait souvent menacé. Là, c'était le coup de trop pour le président et pour les socios et les supporters du Real en général. Donc, c'est dommage parce que ça fait terminer en queue de poisson une aventure sportive absolument extraordinaire.
Alors, Julien, c'est assez intéressant parce que finalement, toi as choisi comme moment le plus difficile de Ronaldo en Angleterre et à United, une histoire un peu similaire finalement.
C'est vrai, alors j'aurais pu choisir aussi ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2006, si vous vous rappelez,
avec
quand l'Angleterre affronte le Portugal, voilà, avec Rooney, et le fameux clin d'œil qui fait, entre guillemets, expulser Wayne Rooney, fait ensuite perdre l'Angleterre. L'Angleterre perd au tir au but contre le Portugal de Cristiano, et c'est vrai que là, il a vraiment été. C'est devenu un petit peu l'ennemi en Angleterre. Il a été hué toute la saison qui a suivi, donc 2006-2007, parce que les gens lui en voulaient beaucoup d'avoir fait, entre guillemets, exclure Wayne Rooney, où il avait un petit peu, on va dire, théâtralisé une altercation avec Rooney sur le terrain. Et je pense, et à ce moment-là, d'ailleurs, lui a un mal-être, et il aurait pu quitter le club si United avait ouvert la porte. C'est en tout cas comme ça que lui l'avait ressenti. C'est vrai qu'il était devenu l'ennemi numéro un un petit peu du pays. Mais t'as raison, j'ai choisi plutôt ce qui s'est passé à la fin de la saison, donc 2008, là, un an avant son départ au Real, où il est, comme on l'a dit tout à l'heure, entre les stats, le Ballon d'Or, la Ligue des Champions, où il est vraiment au summum absolu. Et où il veut déjà partir. Il veut déjà aller au Real. Le Real qu'il a déjà contacté. United est fou furieux, Alex Ferguson, Sir Alex est fou furieux aussi. D'ailleurs, ils vont se plaindre à la FIFA, je crois, et tout ça. Et c'est là où Sepp Blatter prend le parti de Cristiano, d'ailleurs, et dit que c'est du, je crois, si je me rappelle bien, de l'esclavage moderne, que United ne laisse pas partir au Real. Et ça lui a fait beaucoup de mal. Il a bien sûr eu cette discussion assez connue avec Sir Alex, où Sir Alex lui a dit: vas-y, donne-moi encore un an, et après, promis, t'es encore jeune, tu iras au Real et tu feras des grandes choses là-bas, mais donne-nous encore une dernière saison, qui d'ailleurs va leur donner, qui va aller jusqu'en finale de Ligue des Champions, perdu contre le Barça à Rome. Le Barça de Messi, de Xavi et d'Iniesta, où ils sont encore champions d'Angleterre pour la troisième fois de suite, ce que personne d'autre n'a fait dans l'histoire de la Première Ligue. Mais certes, quand même, on a senti ce moment négatif où enfin tout le monde, on a pensé qu'il resterait à United toute sa carrière, en fait, toute sa vie. C'est pour les Anglais, c'est le plus gros club du monde, même si t'es pas supporter de United, et qu'à un moment lui il veuille partir, ça a surpris tout le monde et ça a un petit peu déçu les gens finalement, en disant mais pourquoi, t'as tout ce que t'as besoin ici, t'as le meilleur entraîneur, peut-être un des meilleurs entraîneurs de l'histoire, t'es champion d'Europe, t'as le Ballon d'Or, tu viens de marquer 42 buts en 49 matchs, pourquoi est-ce que tu voudrais aller ailleurs? Et je pense que ça a un petit peu déçu les gens qui fasse un petit peu sa crise pour partir. Au final, il est resté, comme on l'a dit. Mais c'est vrai que c'est peut-être le seul. Et j'ai un petit peu galéré pour trouver les moments négatifs de Cristiano à Manchester United, je vais vous l'avouer. Mais c'est vrai que j'ai choisi celui-là parce qu'il aurait peut-être, encore une fois, pu choisir une meilleure façon de montrer qu'il voulait partir.
Mais en fait, c'est intéressant parce que les trois témoignages des trois pays, c'est le départ qu'il ne sait pas gérer.
Oui. Alors attends, parce que ouais, Johan n'a pas vraiment choisi ça.
Ah
comme
bah pardon, excuse-moi, j'ai eu l'impression que tu allais dire
non,
ça.
Non, mais si en plus tu veux parler à la
même,
place
ça
des
tient
mecs.
Quand même.
Non, mais ça tient non, mais quand déjà, même. Mais en tout cas pour l'Espagne, pour l'Angleterre et l'Espagne, on sent qu'il ne sait pas faire, quoi.
Bah Johan, à la Juve, c'est autre chose qu'il n'a pas su faire. C'est en Ligue des Champions.
Alors, je rejoins Fred, son départ, il n'a pas trop su faire non plus, parce que dans les conditions, on a bien vu les conditions dans lesquelles
ouais,
il
s'est pas entraîné, etc. Ouais.
Voilà, c'était pas hyper clean non plus. Mais non, le moment le plus difficile, bah, pour le plus heureux, j'ai choisi la Ligue des Champions. Bah, pour le moins heureux, le plus malheureux, j'ai évidemment choisi encore cette compétition-là. Et je vais faire un 3 en 1, c'est les éliminations contre l'Ajax, contre Lyon et contre Porto. Parce que Lors des deux premières saisons, c'est encore plus difficile pour lui parce que lui répond présent. J'ai évoqué son triplé contre l'Atlético lors de la première saison, qui permet de passer les huitièmes de finale et ensuite de se faire sortir par l'Ajax. Contre l'Ajax, c'est lui qui marque les deux seuls buts de la Juve. La seconde année contre l'OL en huitièmes de finale, c'est lui qui met aussi les deux buts de la Juve au match retour. Donc à ce moment-là, il a le sentiment de lui répondre présent face à l'événement. Et bah, les autres autour de lui, pas forcément quoi. Donc ça a été d'autant plus difficile à avaler que lui il estimait avoir fait le taf, mais que tout autour de lui, bah, c'était pas à la hauteur de ses ambitions. Et la Juve, elle en avait des ambitions en Ligue des Champions. Ronaldo, il en avait aussi. C'est pour ça que le mariage s'était fait aussi. Et bah, finalement, à la fois la Juve et Ronaldo ont été déçus.
On va disséquer un peu le joueur Cristiano Ronaldo, voir un peu l'évolution de son jeu. Loïc, tu as analysé ses heatmaps, vous savez, les zones où le joueur est le plus présent sur le terrain. Qu'est-ce qu'elles traduisent? Qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans?
Mais ce qui est marrant, donc on a pris à partir de 2006-2007, c'est donc la saison à partir de laquelle on a les données, et on a comparé saison par saison, voir s'il y avait une évolution. Et effectivement, si tu regardes bien... À partir de sa dernière saison à United, à partir de 2008-2009, en fait, il s'accroche vraiment sur le côté gauche de l'attaque et il ne va plus en bouger. C'est-à-dire que tout au long de ses saisons au Real et là, au long des trois saisons à la Juve, il restera toujours côté gauche avec à peu près, on est à 25% de ballons touchés, donc dans les 30 derniers mètres côté gauche, et il ne bouge pas. Et sinon, il est niveau de l'axe, vraiment. Donc contrairement à un Messi, par exemple, qui était un ailier au début de sa carrière et qui, petit à petit, est devenu plus axial et a reculé d'un cran, lui, il n'a pas bougé, Cristiano. Depuis 2008-2009, il est vraiment...
Parce qu'on le décrit souvent comme étant devenu un avant-centre, finalement.
Non, en tout cas, dans son positionnement, ça ne se ressent absolument pas. Effectivement, il navigue, en fait, il joue un peu où il veut, hein, gauche ou dans l'axe, mais il est vraiment ancré à gauche. Ses ballons sont touchés à gauche. Et après, en termes de présence, par contre, dans la surface, c'est là où on voit une grosse différence entre United, le Real et la Juve. Ça a cessé de monter crescendo. Quand il était à United, il touchait à peu près un ou deux ballons dans la surface adverse par match. Au Real, c'était 3-4. Et là, à la Juve, c'était 6-7. Donc là, vraiment, il est vraiment devant. Il joue vraiment devant maintenant.
Alors Julien, il y a un truc qui est intéressant, parce que j'ai revu un petit clip là, de Cristiano Ronaldo lors de ses premières saisons à United, et c'est vrai que quand il arrive, bah, pour le coup c'est un vrai ailier qui faisait des dribbles, mais alors à foison, il arrêtait jamais. Et on a l'impression de voir un joueur différent, à tel point que d'ailleurs Solskjaer hier, première interview sur Ronaldo, il dit « Moi je le veux dans la surface, I want him in the box to score goals ». Je ne vais pas vous traduire, mais vous aurez compris, mais il veut un joueur de surface finalement Solskjaer, mais ce n'est pas du tout le même Ronaldo qu'ils avaient abandonné il y a quelques années les Red Devils. Hein.
Non, c'est ça, effectivement. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça vraiment fascinant, l'évolution du joueur. On peut le comparer un petit peu à un Thierry Henry, par exemple, qui était lui aussi arrivé pur ailier de Monaco et que Wenger avait transformé en un vrai numéro 9. Pour Cristiano, c'est un petit peu différent, bien sûr. Mais c'est vrai, cet ailier flamboyant qui est arrivé du Sporting, il faisait que des passements de jambes, que des roulettes, que des petits ponts, que des grands ponts. Mais tu voyais déjà le talent qui était là. Mais c'est vrai qu'il était dans ce rôle-là. Il y a plusieurs fois où d'ailleurs il énervait tellement ses adversaires qu'à la fin il lui mettait des coups autant qu'il pouvait.
Y compris à l'entraînement d'ailleurs. Ouais, il s'en est pris des taquets des Roy Keane et compagnie.
Ah oui, Roy Keane, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, tout ça, il les raconte encore l'histoire avec. Mais il voulait les prendre ces coups-là. Il voulait tellement progresser, il avait tellement de cette soif incroyable, cette ambition surdimensionnée de réussir, de devenir le meilleur tout le temps, qu'il savait très bien qu'il fallait passer par là de toute façon pour devenir le meilleur. Prendre des coups, aller provoquer Rio Ferdinand, aller provoquer un Vidic par exemple, qui étaient des vrais. Qui étaient des Golgoths sur le terrain. Et à l'entraînement, et c'est ce qu'il faisait tout le temps. Je pense qu'il a énormément travaillé individuellement, tout seul avec soi. Bah, Sir Alex, il faisait pas souvent les séances, mais avec ses adjoints à lui, hein, René Mullenstein par exemple, que peut-être beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas, n'ont jamais entendu le nom, qui était un des anciens adjoints de Ferguson, a travaillé mais des heures et des heures et des heures et des heures que tous les deux avec Ronnie sur les contrôles orientés, les frappes de balle, comment positionner son corps à la réception du ballon, comment protéger tout ça pour devenir pour se transformer d'un ailier, comme on l'a dit, virevoltant à un vrai buteur. Et la saison 2006-2007 dont Loïc parlait tout à l'heure, c'est d'ailleurs sa première saison, je crois, Loïc, où il dépasse la barre des 20 buts en championnat. Et c'est à partir de là où il sait qu'il peut devenir le meilleur buteur de l'histoire ou un des meilleurs buteurs de l'histoire, parce qu'il sait qu'il sent qu'il a ça en lui. Et au final, il va tellement travailler la finition, les automatismes devant le but, la répétition des contrôle frappe, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, la tête bien sûr, les duels aériens, la détente incroyable, qui, je crois qu'à United pendant les 6 ans, c'est un exercice qu'il faisait régulièrement. tu sais, quand tu fais en avant-saison ou quand tu reprends, donc il mesure la détente. Et ben lui, c'était un des seuls, année par année, il gagnait 3 cm, 5 cm. Mais hallucinant, jusqu'au jour
ça
où.
Johan
l'a vu plus que nous, je crois encore, mais le but contre la Sampdoria, par exemple, où
exactement.
Il est en l'air pendant je ne sais pas combien de temps et il monte à 2000 mètres d'altitude. Et voilà, et moi je suis subjugué par une telle force de travail et une telle détermination et dédication.
Fact-checking, Lolo.
Ouais, pour en revenir au dribble qu'évoquait Julien, c'est peut-être un des chiffres les plus marquants pour Cristiano en termes d'évolution en fait de son jeu. Quand on regarde à United, il en tentait en moyenne 6 par match. Au Real, c'était 4 et à la Juve, c'était 3. Donc, il dribble deux fois moins. À la Juve, il driblait deux fois moins quand il était à United. Et quand on regarde le pourcentage de réussite, parce que c'est ce qui est important aussi, alors c'est vrai qu'il est catastrophique au début à United parce que, comme disait Julien, il tente beaucoup. Il est de 43%, il monte à 45% au Real. Et à 55 à la Juve, donc il dribble moins, il dribble mieux. Donc là aussi, il a su perfectionner son jeu et cet aspect-là de son jeu qui le caractérise tant au final.
Après, il faut expliquer une chose aussi, c'est qu'au Real, surtout les dernières années, même si physiquement il était toujours au top, il baissait un petit peu, il partait de beaucoup moins loin. Il a été beaucoup plus présent dans la surface. Donc à partir du moment où tu es beaucoup plus proche du but, tu dribbles moins. Donc c'était toute son intelligence d'être toujours aussi performant au niveau de l'efficacité, justement parce qu'il a su s'adapter à l'évolution de sa condition physique.
Mais justement, Loïc nous le disait tout à l'heure, finalement, ça reste quand même un joueur de couloir et pourtant c'est au Real qui s'est forgé cette image de vrai faux neuf ou faux vrai neuf finalement.
Bah oui, c'est normal parce qu'à un moment, il ne pouvait plus courir autant qu'avant. Quoi. Et puis, comme le Real est une équipe qui est très offensive, qui était très souvent dans le
camp adverse,
il y avait moins de mètres à courir. Quoi. Donc, il y avait, quand tu regardes les premiers matchs de Cristiano Ronaldo, il y avait des grandes enjambées, il y avait beaucoup de contres, etc. Et puis après, avec Zidane, c'était comme un Real qui pressait beaucoup plus devant, qui était beaucoup plus en hauteur, qui pénétrait beaucoup plus les défenses adverses. Hein. Voilà, le positionnement était beaucoup plus haut. Donc, et ça rangeait bien Cristiano. Et d'ailleurs, on a bien vu que Benzema, souvent décrochait pour laisser la place de numéro 9, de faux numéro 9 à Cristiano Ronaldo.
Johan, à la Juve, bon, c'est un joueur, on va dire, fini, qui arrive, enfin, fini dans le sens abouti, et qui arrive à la Juve. Il y avait aussi certains débats tactiques, justement, concernant Cristiano Ronaldo, ce qui me rappelait d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en équipe du Portugal depuis quelques années. Oui, il est efficace, mais d'une certaine façon, il conditionne le jeu. C'est ce qui se dit aussi à la Juve.
Oui, évidemment, il y avait toujours cette question de est-ce qu'il doit être mis à gauche, est-ce qu'il doit être mis en tant que numéro 9. On sait qu'avec Maurizio Sarri, il y a eu beaucoup de débats et il y a eu une incompatibilité tactique vraiment entre les deux parce que Ronaldo ne faisait pas ce que Sarri voulait et puis de toute façon, c'est un peu compliqué de demander à Ronaldo certaines choses quand il n'a pas envie de les faire. Et ce côté, en Italie, on voulait le voir vraiment en tant que numéro 9 parce qu'on avait bien remarqué qu'il avait de plus en plus de mal à gagner des 1 contre 1, à faire la différence par le dribble, par la vivacité, etc. Ça reste un athlète formidable, mais c'est un athlète formidable qui a dépassé depuis un moment les 35 ans, avec tout ce que ça comporte en termes d'usure aussi physique, face à des jeunes de 20 ans qui vont de plus en plus vite, de plus en plus haut et de plus en plus loin. Donc c'est devenu effectivement une machine à but. Néanmoins, il y avait aussi un vrai souci, c'est que là on parle beaucoup de son jeu avec ballon. Dans le jeu sans ballon, ce qu'on a vu à la Juve, c'est que en fait Ronaldo n'existait pas. C'est qu'à aucun moment il n'avait envie de participer à l'effort défensif, que ça soit aller presser pour récupérer le ballon ou même sur du pur repli défensif quand tu as des joueurs qui étaient dépassés, qui se faisaient avoir sur 1-2, etc. Ronaldo ne faisait jamais l'effort. Donc tout ça, on le notait aussi, évidemment, parce qu'il n'y a pas que le jeu avec ballon qui doit être important dans le football et dans l'évolution du football de plus en plus. Donc ça a toujours fait beaucoup de débats. C'est pour ça qu'il y a aussi des crispations avec les entraîneurs, parce que les entraîneurs, on le sait, sont à la recherche de l'équilibre parfait. Ils demandent beaucoup d'efforts à tous les joueurs. Ils aiment bien considérer tous les joueurs de la même manière, sauf que c'est toujours un peu difficile quand on a quelqu'un qui est un peu au-dessus du lot comme Cristiano Ronaldo.
Alors le 5 février prochain, il va fêter ses 37 ans, Cristiano Ronaldo. Loïc, il y en a beaucoup, pas mal, qui le disent sur le déclin. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, chiffre à l'appui?
Non.
Merci Loïc.
Un nom laconique,
non,
en chiffres, clairement pas. En chiffres, il n'est pas sur le déclin. On en parlait avec Johan. Ses stats sont excellentes. Il tourne toujours à un but par match. On l'a comparé par curiosité avec les joueurs, on va dire, avec qui sera en concurrence potentiellement à United, les Rashford, Greenwood et Sancho. Il est au-dessus à tous les niveaux. Les stats offensifs, les stats de distribution, les dribbles aussi. Donc, en termes de chiffres, ça ne se voit pas, ce déclin ne se voit pas du tout. Et c'est la force de ces grands joueurs, c'est de réussir justement à maintenir un niveau de performance égal durant toutes ces années. Et là, avec Bruno Fernandes derrière, Sancho qui est l'un des meilleurs passeurs aussi européens à côté de lui, qui pourrait jouer à côté de lui, on ne sait pas encore où il va jouer forcément, mais non, il n'est pas sur le déclin du tout et il n'y a pas de raison qu'il le soit à United.
Les gars, il y a peut-être...
Non, simplement, il y a un petit donné, la performance de Cristiano Ronaldo, il ne faut pas la regarder seulement pendant les matchs. C'est-à-dire que moi, tous les entraîneurs avec qui j'ai parlé...
L'exemplarité, tu vas dire.
Mais non, mais c'est le mec qui fait monter le niveau des entraînements. C'est-à-dire que l'effet d'un Cristiano Ronaldo sur le travail du groupe au quotidien est quelque chose qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais que les entraîneurs sentent au quotidien.
Tu allais dire, Johan.
Ouais, si on a peut-être un sentiment de déclin parfois, c'est tout simplement parce qu'on est passé dans une ère où l'individualité seule ne permet plus de gagner des grandes compétitions.
C'est vrai.
Et le fait que Ronaldo n'arrive plus à faire gagner, on l'a vu avec la Juve, à lui seul une Ligue des Champions, comme peut-être il a parfois réussi à le faire en étant bien entouré, hein, mais lui en étant l'élément suprême, entre guillemets, bah, peut-être qu'on a l'impression qu'il est en déclin, alors que c'est tout simplement la physionomie ou l'évolution du football qui veut ça.
Les gars, ce podcast sur Cristiano Ronaldo After Europe touche à sa fin. Juste pour terminer, je voudrais que vous me donniez un mot pour le décrire, Cristiano Ronaldo. Julien, tu dirais quoi ?
Je dirais. Alors, juste avant, je voulais dire. Moi, j'ai un truc marrant en faisant les recherches pour le podcast. C'est qu'il a, le record, bien sûr, Loïc, des buts marqués en Ligue des Champions. Il en est à 135, je crois, c'est ça ?
Ouais, et de loin.
Mais il en a pas marqué un seul sur ses 30 premiers matchs de Ligue des Champions. Et j'avais complètement oublié qu'effectivement, au départ, la Ligue des Champions avait été très compliquée pour lui, jeune joueur arrivé à Manchester United. Et je crois que son premier but, c'est contre la Roma, le fameux 7-1, il me semble bien, en 2006-2007. Si tu comptes pas. Ah oui, excuse-moi, Yo. Si tu comptes pas, je crois peut-être, Loïc, un but en éliminatoire ou en, je sais plus, en Ligue des Champions.
En tour préliminaire.
Tour préliminaire, exactement. Mais sinon, il en est quand même à 135 buts. Il a quand même pas marqué sur les 29 ou 30 premiers matchs qu'il fait en Ligue des Champions. Je trouve ça fascinant. Et moi, je dirais, c'est mon mot, c'est fascinant. Pour moi, il est fascinant. Qu'on soit d'accord sur le fait que ce soit lui le GOAT ou Messi ou Maradona ou Pelé ou un autre, c'est pas trop le débat pour moi, mais moi je trouve que c'est quelqu'un fascinant par sa personnalité déjà, et on en a parlé un petit peu, cette froideur parfois, ce côté machine, mais aussi ces chiffres, ces statistiques, le fait qu'il soit, voilà, qu'il ait grandi sans papa et qu'il soit arrivé comme ça au sommet de cette façon-là en transformant son jeu, ce qui est tellement difficile à faire au très haut niveau dans le football. Moi, voilà, fascinant pour moi, c'est le mot.
Il est long ce mot, hein.
Ouais, t'as vu, c'est des mots à l'anglaise. Ils font tout à l'envers, les mecs. Tu leur dis un mot, ils te font des phrases et tu leur dis tu peux me débattre un truc, analyser et tout, ils te balancent une phrase.
T'aurais pu me dire ça. Yeah. Je t'aurais dit fascinant juste si tu m'avais posé ça comme question.
J'ai dit un mot, écoute un petit peu s'il te plaît maintenant. Ça saoulait. Mais... Fred.
Moi, je vais utiliser un mot, mais je vais l'expliquer pourquoi.
Ah bah, je vais dire le mot. On a déjà pété le chrono là.
Quel escroc.
Non, mais c'est bien rapide.
Thomas va me tuer.
C'est. Je vais dire machine en espagnol, c'est machina.
On a machina. Comme en italien et en portugais, comme dans toutes les langues.
Machine. Mais on a Makina, c'est aussi un mec qui vaut le coup. C'est un mec génial aussi. Donc il est les deux. C'est une machine, mais c'est un mec très attachant quand même.
Johan, ton mot.
J'avais machine, donc je vais être obligé de changer. Je vais essayer de résumer avec trois mots que j'ai déjà utilisés. C'est robot, voilà. Égotique et fantastique.
En plus, ils disent des mots qu'on comprend
pas. Ça résume
pas,
tout
génial.
Pour moi. Ça résume la personnalité, le côté exceptionnel du joueur. Mais voilà, je trouve que, enfin, en tout cas pour moi, ça résume un peu tout ce qu'est Ronaldo.
Lolo, Loïc, Moro.
Au-dessus.
Ouais, c'est deux mots, mais bon, ça marchait composé, ça passe.
Non,
ouais,
ta question, elle est vraiment. Ouais, c'est le bordel.
T'as vu, je sais pas tenir un débat.
Nicolas Villas en un mot. Nicolas Villas en un mot.
Moi, je dirais obsédé. Non, mais dans le sens. Par les stats, la performance, le truc. Voilà. Moi, tu vois, en un mot, ça passe. Merci beaucoup, les mecs.
Adios, chicos.
Merci beaucoup. Voilà deuxième numéro du podcast Europe After Europe, voilà, qui vient de se terminer. On était avec Julien Laurence, Fred Hermel, Johan Crochet, Loïc Moron. Merci Jérôme Thomas qui nous a été préparé ce podcast et Julie Auderoux qui était à la réalisation. À très vite. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao.
RMC After Europe. Le podcast. Nicolas Villas.